Godzilla. C'est très, très bon. Il n'y a rien d'aussi excellent que l'ancien évangile, qui est la Bible. La Bible qui est devenue pour nous un merveilleux son, parce que elle a trouvé joueur de harpe, un prophète dans cet âge. Alléluia. De telle manière que quand on navigue un peu dans la Bible même, c'est toute une mélodie. Amen. Que Dieu nous accorde cet ancien évangile. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu, la parole éternelle de Dieu. Et nous allons lire dans 2 Samuel. 1 Samuel. Au chapitre 2, verset 5. 1 Samuel, chapitre 2, au verset 25, je lis. Et je vais juste, lire le verset 25. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père. Pourquoi? Car l'Éternel voulait les faire mourir. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de ses saintes paroles. Nous allons prier. Dieu notre Père, ô Seigneur, tu as suivi la prière de tes enfants au travers de ce cantique. Oh, il ne cessait de répéter maintes fois, donne-moi cet ancien évangile. Cet ancien évangile, Seigneur, où, oh Dieu, les malades étaient guéris, les captifs étaient délivrés, les sourds, Seigneur, pouvaient encore attendre. Nous avons faim et soif de cet ancien évangile. Seigneur, ce n'est pas un homme qui peut le donner, il n'y a que toi, Seigneur. Oh Dieu, s'il y a quelque chose qui pourrait t'empêcher de venir nous donner cela, oh Seigneur, sonde maintenant nos cœurs ainsi que nos reins et pardonne, Seigneur, nos péchés, nos manquements. Toutes ces barrières qui pourraient t'empêcher de le faire. Oh Dieu, nous venons courbant nos têtes devant toi. Oh, les dirigeant vers la poussière de la terre à partir de laquelle tu nous as tirés, Seigneur. Puisque nous ne sommes rien du tout, Seigneur. Nous ne sommes quelque chose que par ta grâce. Viens maintenant te mouvoir au milieu de ton peuple, le brebis de ton pâturage, et faire des choses comme celles que tu faisais avant la crucifixion dans cet ancien évangile. Seigneur, accorde-nous cela au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir et je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore dans la joie de nous retrouver autour de cette nourriture qui ne périt pas et qui donne la vie éternelle. Nous venons de lire ce passage. Ça nous rappelle tout simplement l'histoire d'Élie. Vous voyez, je peux peut-être commencer à lire cette histoire au verset 12. Les fils d'Élie, nous connaissons ce qu'il faisait dans l'assemblée, l'église de Dieu vivant. Il est dit là-bas, les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificataires à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les serviteurs du sacrificateur arrivaient au moment où l'on faisait cuire la viande, la chair. Voilà. Donc, C'était des gens qui méprisaient les sacrifices, les offrandes de l'Éternel. Ce qui est étonnant, c'était des prédicateurs, des sacrificateurs. Ah, oh Dieu, aide-nous. Voilà. Donc, peut-être que, bon, je vais faire un petit drame. Les frères Anatole, les noms que le pasteur a l'habitude de donner pour ne pas cibler quelqu'un. Et peut-être que le frère Anatole était passé leur dire, mais bien-aimés, pourquoi vous vous êtes en train de vous comporter ainsi? Et peut-être que ces gens pouvaient dire, mais toi qui es-tu? Nous sommes des prédicateurs. Nous sommes des sacrificateurs. Ça ne veut rien dire pour Dieu. Dieu, tout ce qu'il veut, c'est que votre vie est-elle digne de l'Évangile? Prédicateur, celui qui est assis sur les bancs, l'essentiel, c'est la vie. Si la vie n'est pas là, Dieu ne nous considère pas comme ça. Parce que la vie de Dieu, nous ne la manifestons pas. Alors, peut-être que, justement, ces prédicateurs ont envoyé se promener ce frère Anatole. Mais le frère Anatole, comme il avait l'amour de la vérité, l'amour de ses frères, il ne se fatiguait pas. Il est peut-être allé prendre le frère Arnold. Ils ont ça comme ça. Allons voir ses bien-aimés. Parce que tel qu'ils sont en train de se comporter comme ça, c'est la mort. Et la mort vraie, la séparation éternelle d'avec notre Dieu. Alors, ils sont arrivés là avec le frère Arnold. Mes bien-aimés, nos bien-aimés, vraiment, vous êtes en train d'achoper les frères et les sœurs. Ah, ils se sont même fâchés. Mais vous, qui êtes-vous? Moi, j'ai fait 40 ans dans le message. Vous ne venez de croire il n'y a pas longtemps ici. Ça ne veut rien dire. Même ces 40 ans-là. Eliab en avait fait peut-être 50 ans. Mais Dieu n'a pas regardé à ces années-là. Il est allé ramasser un petit garçon qui était derrière le brebis de son père. Ce n'est pas le nombre d'années. Ce ne sont pas les titres. Non, c'est la vie. Dieu regarde à cette vie qui manifeste son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Ah, ils ne se sont pas arrêtés là, Arnold avec Anatole. Ils ont dit non, non. Ces gens-là, il ne faut pas les laisser mourir comme ça. Voilà, ça, on peut découvrir ça ici. Disons, verset, si on peut descendre, verset 22. Élie, oui, bon, je vais pour gagner du temps, verset 23 peut-être. Il leur dit, c'est Élie qui leur parlait maintenant. 22. Élie était fort âgé et il a pris. Donc, peut-être que Arnold et Anatole sont allés annoncer la nouvelle au pasteur. Au souverain sacrificateur Élie. Et alors, il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Voilà. Arnold, avec Anatole, sont allés les dire donc aux responsables. Ah! Vraiment, ça l'a touché quand même. Et lui-même s'est dit, non, je vais parler à ses fils. Alors, il leur dit donc au verset 23, donc il parle maintenant à ses enfants, « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions, non mes enfants. Ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. » Voyez, quand moi je me comporte mal comme ça, il y a d'autres qui sont aussi en train de mourir. Voilà. Donc, nous avons la lourde responsabilité des chrétiens à partir du moment où nous avons pris position pour Jésus-Christ. Donc, je ne vais pas faire ça parce que ah, mon frère va s'achoper. Cette sœur va s'achoper. C'est ce que le papa essaie de leur dire. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, ce que vous êtes en train de faire ici, c'est contre l'Éternel lui-même. Est-ce que vous savez ce que ça signifie l'Éternel? Vous savez ce que ça signifie le Dieu Tout-Puissant? Vous péchez contre l'Éternel. Maintenant, qui va intercéder pour vous? Parce que quand au moins on est du côté de l'Éternel, même si les hommes nous condamnent, lui, il est en même temps notre avocat, il est notre juge. Mais vous avez détruit cette relation. Mais qui va encore être pour vous? C'est très grave, hein? Mais il pêche contre l'Éternel qui intercédera pour lui. Ils n'écoutèrent point la voix de leur père. Car l'Éternel voulait les faire mourir. Voilà. Ils n'ont pas écouté même leur propre papa. En plus, leur pasteur. Ce qui est très, très grave. Mais une chose est ici, c'est que quand le pasteur a donné tout ça, toutes ces exhortations, tous ces avertissements, ah, après c'était silence radio. Ah, voici alors, le Seigneur n'a pas été content de ce silence radio. Ça ne devrait pas s'arrêter à ce niveau-là. Puisqu'il y a d'autres étapes et le souverain sacrificateur est informé, hein, qu'il faut passer à une autre étape à ce moment-là. Alors, vous voyez, nous allons voir comment le Seigneur, l'Éternel, a interprété ce silence radio de son serviteur. Hein. C'est vraiment son serviteur. Alors, et au verset 29, il dit, c'est l'Éternel maintenant qui a envoyé son envoyé là, il lui parle. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Peut-être que Élie pouvait dire, mais ce n'est pas moi, ce sont mes enfants. Mais tu laisses faire. Donc tu participes. Comment je laisse faire, Éternel? Hein? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Tu honores tes fils plus que la parole. Tu connais la parole. Tu devrais aller plus haut, plus loin que ça. Plus loin, c'est où? C'est où, Éternel? Vous savez, hein, même dans la maison, quand la femme commence, ben, vous lui avez donné des conseils, mais il y a la discipline. Et dans cet âge ici, on a prêché la discipline. La discipline n'est pas une mauvaise chose. La discipline, c'est une bonne chose. C'est Paul qui le disait. Donc, en fait, bon, avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'il devrait faire, en fait? Il devrait, alors, annoncer cela à l'Église. Dit, voici, tel frère et tel... Parce que là, c'est des relations... Ce n'est plus les relations papa-fils, mais c'est la parole. Il annonce à l'Église... Alors, on leur donne un délai, 30 jours. C'est ça le message. Hein? Il dit, si vous continuez comme ça, on va vous discipliner. On va vous livrer à Satan. Vous allez, il y a des gens qui disent, mais pourquoi livrer des gens à Satan? Non, c'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour, mais les choses de Dieu, les gens ne comprennent pas ça. C'est Paul qui avait dit ça. Attendez, je vais retrouver ça. Ah, c'est 1 Timothée. 1 Timothée 1, 19. 1 Timothée 1, 19. C'est un acte d'amour. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas. Quand, justement, vous faites une fessée à la face, ce n'est pas parce que vous ne l'aimez pas. Ce n'est même pas pour le tuer. Bon, on va le dire après. Les politiciens n'ont pas compris ça, malheureusement, dans les pays européens. Voilà. 1 Timothée 1, 19. C'est Paul qui parle, qui prêche ici. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ces nombres sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan. Pourquoi? C'est pour qu'ils apprennent quelque chose. Qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. C'est quand même une bonne chose qu'on a la révélation maintenant sur les dangers de blasphémer. Ce n'est pas pour les tuer, mais c'est pour qu'ils apprennent. Vous savez que pour gagner du temps, même ça s'était passé dans l'église de Corinthe, là. On a livré à Satan et ces gens se sont répandus. Quand ils se sont retrouvés dans justement la punition, le diable a commencé à les maltraiter. Ils ont dit Ah, ça c'est très grave. Ils se sont répandus. Même quand bien même quelqu'un mourait, parce que quelque part il est dit c'est mieux même que son corps soit tué pour que son âme soit sauvée. Dieu regarde beaucoup à cette âme-là. Donc ce n'est pas quelque chose de mauvais. Quand on livre quelqu'un à Satan, c'est la discipline. Et là, justement, comme je l'ai dit, beaucoup de politiciens n'ont pas compris ça en Europe. Et nous sommes en train de, justement, de vivre les conséquences néfastes du fait qu'on a pensé que le fouet, il ne faut plus l'utiliser. Quand un parent fouette son enfant, ce n'est pas pour le tuer. Bien sûr, si toi, tu fouettes l'enfant pour le battre, l'enfant va comprendre, ça, ici, il est en train de me battre. Mais si il sait que tu es en train de le fouettes pour le corriger, il le saura aussi. Il le sait. Les enfants sont des êtres qui réfléchissent très bien. Donc, la Bible nous dit clairement qu'il ne faut pas épargner les fouets, mais les politiciens ont dit non, ça traumatise les enfants. Maintenant, parce qu'on a dit qu'il faut le faire pour éloigner l'enfant de la folie qui est attachée à cet enfant. Vous voyez vous-même combien beaucoup d'enfants sont devenus des fous et des folles. De telle manière que même à l'école, mais les enseignants sont en train de piquer des crises. C'est des affaires très difficiles. Les enseignants sont stressés, surmenés. Conséquence, métier à pénurie. Beaucoup ne veulent plus même faire ça. Tellement que les affaires sont devenues très difficiles. C'est cette folie-là qu'on a entretenue. Une enfant qui vient auprès de ses parents avec une jupe courte, fendue encore, ça c'est la folie. Est-ce que si le papa fait la même chose, mais vous allez crier au scandale? Si le papa aussi allait, vient, dit bon voilà, tout ce que vous voulez, moi aussi je viens avec ça. C'est scandaleux. Un garçon qui vit avec ses copines, couché avec ses copines dans la maison de ses parents. Quel scandale! C'est la folie. La folie qu'on a entretenue, qui est en train de détruire. Alléluia. Amen, amen. Il ne faut pas maintenir rigueur. La parole de Dieu, c'est très bien. Même quand elle nous cogne là, si vous avez l'amour de la vérité, vous direz, merci Seigneur. C'est pour mon bien, mais c'est très dur pour moi. Aide-moi Seigneur. Aide-moi à sortir de cette situation. Et le Seigneur va t'aider. Alléluia. Amen. Mais ils n'écoutèrent pas leur père. C'est ça le sujet. Ils n'écoutent point la voix du père. Le sujet aujourd'hui, c'est celui-là. Il n'écoute point la voix du Père. Ah, pourquoi ils n'ont pas écouté la voix de leur père? La voix du père. Bon, ici d'abord, je vais commencer par la voix. On n'a pas dit qu'ils n'écoutèrent pas la parole. Ils n'ont pas écouté la voix. Il y a une différence entre la voix et la parole. N'est-ce pas? Parce que, bon, je prends peut-être le frère Nestor. Il peut lire la parole. Frère Fabrice aussi lit la même parole, les mêmes écritures. Ils peuvent lire les mêmes écritures. Mais vous allez dire, non, c'était Nestor qui a parlé. Parce que vous avez justement discerné sa voix. La voix, c'est quelque chose d'unique pour une personne. La voix, c'est justement, est individuel. Tandis que les Écritures pouvaient les mémoriser comme vous voulez, mais est-ce que la voix de l'Éternel est sortie? Est-ce que vous avez pu capter cette voix-là? Alléluia. Amen. Donc, pourquoi ils n'ont pas... Attendez. Je suis en train de... Oui. Bon, ils n'ont pas écouté la voix de Dieu dans ce que leur papa leur a dit. Alors que Samuel avait écouté, avait capté la voix de Dieu dans ce que leur propre papa... Samuel n'était pas le fils biologique de cet homme-là. Mais Samuel avait capté la voix. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que les enfants-là pouvaient peut-être s'être dit là? Ah là, ce n'est que papa qui parle. Ah là, ce n'est que le prédicateur qui parle. Et là, c'est très, très dangereux. À partir du moment où les Écritures sont en train de vous être adressées et vous dites, mais ça, ce n'est que papa, ça, ce n'est que mon mari, ça, ce n'est que mon frère, ça, ce n'est que le prédicateur. Hein? Nous avons suivi là, car il voulait les faire mourir. Cela veut dire que la mort est en train de rôder autour de toi à ce moment-là. La mort, séparation éternelle avec Dieu. Il faut faire attention, car c'est la parole de Dieu. Quelle que soit la personne qui vous l'annonce, à partir du moment où ce sont les Écritures, toi, sois attaché à ces Écritures-là. Ne regarde pas la vie de la personne. Prie pour la personne. Mais toi, tu es ici seulement pour Dieu, pas pour quelqu'un. Voyez, donc j'ai compris ça parce que ça s'est passé, par exemple, avec Akab. Nous connaissons l'histoire d'Akab. Hein? Akab, Michée vient lui dire, j'ai vu tout Israël dispersé. Pour montrer que, en tout cas, tu ne vas pas gagner cette bataille. Ça ne fait de toi qu'Akab. Michel lui a dit clairement. Mais Akab a dit, mais il ne prophétise rien de bon contre moi. Est-ce que c'était l'affaire de Michel? C'était Dieu lui-même. Mais lui, il a dit, mais ce n'est que c'est Michel seulement qui a parlé. Ce n'est pas Dieu. Hein? À fait de compte, d'ailleurs, il a appris seulement les pauvres Michel à prison. Mais pourquoi prendre ce pauvre prédicateur? Il faut aller s'attaquer à celui-là. Hein? Qui a parlé? Celui qui a parlé, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Mais Dieu n'abandonne pas ses enfants. Ce que Michel a dit, c'est ce qui s'est accompli. Alléluia. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Paul l'avait dit. La vérité semble être un peu faiblard là-bas, mais c'est finalement la vérité qui a toujours raison et qui doit l'emporter. La vérité, c'est une grande puissance. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, voyez, Akab, nous pouvons multiplier des exemples. Hein? Par exemple, les gendres de Lot. C'est aussi l'histoire que nous connaissons bien. Bon, pour gagner du temps, on ne doit pas beaucoup lire peut-être. Voilà. Lot, il vient de recevoir la visitation des anges. on va détruire Sodome. Il dit non, il faut aller aviser mes gendres qui sont là. La Bible dit que ces gendres, quand ils ont entendu l'autre parler, ils disent, mais c'est des plaisanteries. D'où viendra ce feu-là? Et voilà. Donc, aux yeux de ces gendres, il a paru plaisanté. C'est ça. Parce que ces gens-là n'ont pas pu capter la voix de l'Éternel au travers de la prédication de l'autre. Ils ne se sont pas identifiés à la voix de l'Éternel. Il y a une grande profondeur. Ils ne se sont pas identifiés. En fait, quand l'Éternel parle, si tu es vraiment son fils ou sa fille, tu vas reconnaître quelque chose qui te ressemble dans cette voix. N'est-ce pas? Voilà. Alors, je vais donner par exemple un exemple. Je vais parler de Michel ici. Son papa, il parle Kikongo à l'État. C'est ça. Hein? Michel effectue un voyage dans des pays lointains. Ils sont en Norvège. Tu as déjà été là. Hein? C'est comme si c'est assez loin. Alors, il arrive dans un métro là. Il attend quelqu'un qui est en train de téléphoner à Kikongo à l'État. Quelle sera ta réaction? Il sera surpris. Ça va éveiller ta curiosité. N'est-ce pas? Ça va éveiller ton attention. Pourquoi? Pourquoi tu es surpris? Dans ce coin-là, quelle langue? Qui est comment pour toi, cette langue? C'est une langue familière. Donc, quand il parle là, tu te retrouves dans cette langue. Dis, oh, ça c'est comme papa. Papa me parle souvent comme ça. Hein? C'est ça l'Éternel aussi. Quand il parle, tu dis, ça c'est moi. C'est pour moi aujourd'hui. Parce que tu trouves ta part là-bas. Ça fait écho dans ton cœur. Parce que tu es une partie de la personne qui est en train de parler là-bas. Alléluia. Amen. Voilà. Et Thessaloniciens 2:13 nous donne ce conseil ici. Enfin, c'était Paul qui parlait aux Thessaloniciens. Et Thessaloniciens. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous avons fait attendre. Les nous, là, ce sont les prédicateurs, comme Paul. Vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit à vous qui croyez. Alléluia. Et quand vous recevez cette parole, ça va agir. Puisque la parole de Dieu qui vient de la bouche de Dieu ne peut jamais retourner à Dieu sans effet. C'est impossible. Parce que c'est une parole toute puissante. Amen, amen. Et le problème des pharisiens, c'est ça. Les pharisiens, ils pensaient que bon, Jésus, ben, toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Mais il dit, mais ne serait-ce qu'à cause de ces écritures, si de ces œuvres que vous voyez, les œuvres du Père, croyez quand même, non. C'est parce qu'il voyait seulement un homme. C'est le grand problème des pharisiens et de tous ces juifs qui n'avaient pas cru à Jésus. Leur problème, c'est parce que Dieu s'est fait. Il est venu comme un homme comme nous. Frère Branham, je pense, pouvait le dire, il est très difficile de croire même à Dieu comme ça que de croire à un homme comme toi. Donc, dont tu connais tous ses défauts, tout ça, tu commences à analyser tout ça, alors ça devient difficile. Mais malheureusement pour nous, Dieu n'a pas d'autre moyen Il utilise seulement les hommes pour l'évangile, avec toutes leurs faiblesses. Alléluia. Amen, amen. Alors, donc, quand on ne capte pas, on n'écoute pas, on ne prête pas attention à cette voix-là. Je venais de dire qu'il faut faire attention parce que la mort est en train de rôder autour de vous. Puisque nous avons deux phénomènes autour de nous, ça nous ne devons jamais oublier ces deux phénomènes-là. Il y a l'ange, l'Éternel qui campe. Il y a aussi l'ennemi qui rôde. Il cherche qui il va dévorer. Alors, pour que toi, enfant de Dieu, tu ne puisses vraiment pas être dérangé dans ce monde, Dieu fait quoi? Il prend son amour, il place à toi. Il place l'amour du Père. C'est l'amour du Père. Tout ce que nous devons faire, ça ne doit pas être parce que nous avons peur de l'affaire, parce que nous avons peur du pasteur, parce que nous avons peur du diacre. C'est parce que nous aimons le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est plus efficace. Si vous faites des choses par amour, c'est ainsi qu'il place l'amour du Père, l'amour de la vérité. Akab n'avait pas l'amour de la vérité. On lui dit clairement, tu vas mourir là-bas. Hein? Il n'avait pas, lui, l'amour de la vérité. Oh, les fils les gendres de Lot, même chose. Il n'avait pas ça. Donc, quand tu as l'amour du Père à toi, ah, le Père vient maintenant. Il va s'installer à toi. Il va te remplir. Parce qu'il a dit, j'aime ceux qui m'aiment. Il est dit dans le Proverbe, j'aime ceux qui m'aiment. Maintenant, quand tu as l'amour du monde, c'est le diable qui va se réjouir. Ah! Donc, le diable peut aussi dire la même chose, j'aime ceux qui m'aiment aussi. Il viendra. Il va venir s'installer, il va installer ton royaume à toi, tu seras un petit roi du diable. Il va te réjouir, mais je serai roi. Mais qu'est-ce que signifie un roi du diable? Donc ce sont les maladies, ce sont les péchés, il va te remplir de toutes ces mauvaises choses. Amen. C'est ça donc. Voilà. Donc, la voix, ils n'ont pas écouté la voix de leur père parce que Dieu voulait les faire mourir. C'était ça. Mais la différence avec Samuel. Samuel, c'était un peu c'était différent de ses fils-là. Ils étaient dans une même assemblée. On va un peu relire Samuel 3-6. 1 Samuel 3, 6. 1 Samuel 3, 6, il dit. Bon, je vais lire vers la fin. Je n'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. Samuel ne reconnaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Mais je suis ceci sur mon fils. Ah, il y a donc Élie l'appelle son fils, alors qu'il ne l'a jamais mis au monde, il ne l'a jamais engendré. Mais comment il parle maintenant à ses enfants, Samuel, le même Élie? Alors on va voir ce qu'il disait là, c'est pas bon tout ça. Oui, donc 1 Samuel 2, chapitre 2, au verset 24. Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Ah, ses propres enfants, il les appelle mes enfants. Il y a une différence aussi entre fils et enfants. Connais la différence? Ouais. Fils, c'est... Il y a une connotation d'identité, d'hérédité. C'est mon fils. Celui-là va hériter. Et voilà comment Dieu pouvait même conduire Élie. Donc, indirectement, il disait à ces enfants-là, mais vous n'allez pas hériter spirituellement à cause de tout ce que vous êtes en train de faire là. Mais celui qui va hériter, c'est celui-ci. Et il a été prophète des nations. Samuel, un grand prophète. Parce que il a écouté, il pouvait prêter l'oreille à la voix de l'Éternel au travers de la prédication d'Élie. Alléluia. Amen. Donc, quand tu es fils, Dieu, je viens de le dire, il place en toi l'amour du Père. Et cet amour du Père-là, c'est quelque chose comme un détecteur de mensonges. Ça détecte le mensonge et ça s'attache à la vérité. Et nous avons l'exemple, par exemple, de Josaphat. Bon, ça, on ne va pas lire, on va lire l'autre. Josaphat, il y a 400 prophètes de Baal qui sont là. Ils sont en train de prophétiser comme ils veulent, là. Mais ça n'a pas sonné très juste dans l'oreille spirituelle de Josaphat. Il a détecté qu'il y a et ça ne va pas là-bas. Vous pouvez lui demander, mais comment vous pouvez nous expliquer? Non, spirituel. Mais il a détecté néanmoins qu'il y a et ça ne va pas dans ce qu'ils sont en train de dire là-bas. Et c'est comme ça que vous détectez aussi. Quelle que soit la personne qui vous parle, qu'il soit Paul ou qui, cherchez toujours à revenir à la parole de Dieu. Comme les Béréens. Voilà, Josaphat a dit non, non, ça ne va pas là-bas. Hein? Là, c'était tout faux. Mais je vais donner l'exemple de quelqu'un. Il était très sérieux dans les Écritures. Presque 100% vrai. Mais le problème là, c'est le presque là. Pour Dieu, il n'y a pas de presque. Pour Dieu, c'est la loi de tout, de rien. C'est 100% ou non. Vous voyez, on va donner l'exemple de Acte. C'est Acte 18, je crois. Acte 18. Voilà, acte 18 au verset 24. Il s'agit du grand. C'est un grand messie Apollos. Il a travaillé avec Paul. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent. Tu ne vas pas rivaliser avec lui du point de vue éloquence. Ce n'était pas tout, hein? Puisque ce n'est pas ça l'essentiel pour être prédicateur. Mais encore, versé dans les Écritures, ça faisait toujours pas peur. Ça peut pas vous faire peur à un enfant de Dieu. Même si tu es versé dans les Écritures, même si tu opères des gros miracles, même si l'enfant de Dieu est connecté à la voix de son Père. Alléluia. Amen, amen. Donc, dans les Écritures, vers à Éphèse, ah, suivons toujours, il était instruit dans la voie du Seigneur. C'était pas n'importe qui, hein. Fervent d'esprit. Il annonçait avec exactitude, terrible, hein? Exactitude ce qui concernait Jésus. Mais voilà maintenant le presque. Bien qu'il n'ait connu que le baptême des gens. Ah! Donc là, c'est ce qui clochait. Et la foi de Dieu, il ne savait peut-être pas tout ça. Mais la foi de Dieu, ça les touche directement. Ça cloche ici quelque part. Donc c'est peut-être 99,9999% de vérité, mais ah, il y a 0,0001% qui n'est pas correct. Les enfants de Dieu ne sont pas faciles. C'est ainsi qu'il ne faut pas blaguer. Il faut tellement... Il faut s'attendre, dit Seigneur. Je ne suis rien devant ce prince et ce princesse. Que voudras-tu que je puisse leur dire? Parle toi-même, puisque ces enfants ne peuvent écouter que ta voix. Alléluia. Amen, amen. Amen. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Maintenant, écoutez, Aquilas et Priscille, ils ont bien suivi la vie. Oui, il prêche très, très bien, exact. Mais il n'y a rien là. Il n'y a rien. Les enfants de Dieu, c'est comme ça. Quand tu es né de nouveau, c'est comme ça. Tu as ce qu'on appelle l'amour du Père à toi. L'amour de la vérité. Alléluia. Quand tu n'as pas cet amour de la vérité, c'est à ce moment-là qu'on viendra dire, mais Abraham, le troisième Adam, il va gober une chose comme ça. Alors que la Bible dit qu'il n'y a que deux Adam. Là, c'est même trop clair. Amen, amen. On ne peut pas tromper la foi de Dieu. C'est ça. Alléluia. Voilà. Priscille, Aquilas et Priscille, l'ayant attendu, le prirent avec eux. Maintenant, ils lui exposèrent plus exactement. Donc, il y a un petit rien que tu as laissé là, mon frère Apollos. La voix de Dieu. Voilà. Heureusement, Apollos était un vrai serviteur de Dieu. Vrai? Qu'est-ce qu'il prouve? Parce qu'il a écouté déjà comme les Priscilles là. Lui qui est... C'était les compagnons de Paul ici, Apollos. Mais il écoute quelqu'un qui... Je ne sais pas s'ils étaient même des prédicateurs. C'est ça l'écoute. Apollos a écouté aussi. Comme Priscille avait écouté. Écouter, c'est quelque chose de très, très important. Là, écoutez, c'est ici. Il a pu capter la voix du Seigneur dans ce que Priscille disait et Aquilas. Et voilà, cela a aidé. Il a pu peut-être se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a eu le baptême du Saint-Esprit maintenant. Voilà. Il a été complet à ce moment-là. Ça, c'est... Quand on écoute aussi, cela montre que vous êtes humble. C'est l'humilité. Vous écoutez. Parce que c'est tout qui nous parle de Dieu. Ici, les prédicateurs, même à l'extérieur, même les païens, là, quand il est en train de parler, là, ça me touche. Même lui peut vous parler de Dieu. La nature vous parle de Dieu. L'histoire vous parle de Dieu. Il faut juste écouter. Il faut juste prêter l'oreille. Alléluia. Amen, amen. Voilà. Donc la différence, c'était ça. C'est que Samuel, lui, était un enfant de Dieu. Donc était fils. Tandis que les autres, c'était juste des enfants. Il écoutait. Alors, nous continuons maintenant. Donc, les enfants d'Élie n'écoutaient pas. Nous venons de comprendre, c'est parce que, justement, ça ne faisait pas écho en eux. Donc, juste pour dire les choses simplement, ils n'étaient pas nés de nouveau. C'était ça. Et quelles conséquences maintenant? Ils ne sont pas nés de nouveau, ils n'écoutent pas la voix de l'Éternel. Conséquences, on va voir un peu. Voilà. On va aller lire dans 1 Samuel 2. Au verset 12, 1 Samuel 2. 1 Samuel 2, verset 12. Oui, ça, on venait de lire ça. Donc, comme il n'avait pas l'amour du Père, c'est l'amour du monde qui est venu. Donc, le Père viendra quand vous nourrissez, hein, vous le nourrissez, quoi. Vous voyez l'histoire du chien noir et du chien blanc. Et il nourrissait justement quelque chose du monde. Et alors, l'amour du Père ne pouvait pas venir. Leur préoccupation, c'était ça. On a lu ça, donc, il prenait de l'offrande. Il menaçait même ceux-là qui présentaient ces offrandes-là. Pourquoi le ventre? C'était des serviteurs de ventre. Et la Bible dit que certains prêchent même pour leur ventre. Certains viennent à l'église pour leur ventre. Là, c'est l'ancien temps, mais aujourd'hui, on ne vient pas avec des animaux à l'église, tout ça, c'est l'argent. Les offrandes, on vient avec l'argent ici. Et une des choses qui fait tomber beaucoup de prédicateurs, c'est ça, l'amour de l'argent. Ils écoutent plus la voix de l'argent. Ils écoutent plus la voix de la nourriture. Tellement qu'ils écoutent la voix de la nourriture qu'ils n'ont même pas une seule minute pour jeûner et prier. Et quand, justement, vous n'avez même pas une seule minute pour faire ça, il y a certains démons qui vont dire, moi, je suis spécialiste justement pour tourmenter ceux-là qui ne gênent pas. Je vais l'attaquer. Puisque la Bible dit que certains esprits mauvais là ne peuvent quitter que si vous avez jeûné et prié. C'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas la loi. Mais on a tellement l'amour de la nourriture qu'on n'a pas ce temps-là. Parce que la nourriture devient comme un dieu. Tout ça, c'est écrit dans la Bible, qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Hein? On peut quand même lire ça, je pense qu'on a encore un peu de temps. Oui. Romains 16, 8. Romains 16, 8. Romains 16. 16, 8. Car de tels hommes ne servent point Jésus-Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Alléluia. Et nous savons bien que c'est des choses qui nous seront ôtées, et le ventre, et la nourriture, et toutes ces choses. Mais quand on néglige la parole de Dieu, la seule chose qui ne nous sera pas ôtée, on est fichu, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est l'amour de la nourriture, esclave de la nourriture, pas même un temps pour prier parce que la nourriture est là. Alors, deuxième chose, leur préoccupation, c'était quoi? Encore, on va lire. 1 Samuel 4. 1 Samuel, non, attendez, je vais... Oui. 1 Samuel 4. 1 Samuel 4, verset 19. 1 Samuel 4, verset 19. Coucher. Non. Je suis en dehors. C'est 1 Samuel 2. Oui. Non, on va lire 1 Samuel 2, au verset 22, plutôt. Élie était fort âgé. Il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi quelque chose de terrible. Qu'il couchait même avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Ah, quelle folie, mon Dieu. Au lieu même d'aller chercher des hôtels, on vient faire ça à pleine église. C'est terrible, hein? Donc, la parole de Dieu qui est écrite là dans 1 Corinthiens 7, je crois, qui dit, bon, à cause de toutes ces occasions d'impudicité dans ce monde, mariez-vous. Dieu nous donne des femmes pour nous, des femmes pour que nous puissions nous marier afin d'éviter l'impudicité. Mais ce n'était pas suffisant pour ces jeunes gens. Ce n'était pas suffisant. Pourquoi le diable les trompait en disant non, mais c'est différent. Votre femme, c'est différent de celle-là. Il n'y a pas de différence. Sinon, Dieu n'aurait pas dit ça dans la parole de Dieu. Là, c'est pour les mariés, même les jeunes gens. Ah, on dit que c'est vraiment tout terrible là-bas. Non, il faut que j'essaye aussi les plaisirs là. Je vais seulement copier le frère Benoît qui dit, il n'y a pas photo avec le plaisir de la parole. Le plaisir que vous donne la parole. D'ailleurs, la Bible dit, heureux ceux-là qui trouvent du plaisir dans la parole. Ça donne un plaisir jamais. Mais c'est question d'entrer là-dedans. Alléluia. Amen. Alors, donc, ces jeunes gens, ils tombaient dans l'impudicité. C'est encore une fois une des choses qui fait tomber les serviteurs de Dieu. Beaucoup de chrétiens tombent là-dedans. C'est parce qu'on aime bien nourrir le monde. Quand vous nourrissez le Saint-Esprit, il viendra, il va vous aider. Hein? Je l'ai toujours dit. Enfin, je vais pas parler maintenant. Hein? Bon, on va passer. Quand justement vous nourrissez le Saint-Esprit, méditation, prière, il va vous aider même face à toutes ces tentations d'impudicité-là. Ce n'est pas plus fort que notre Dieu. Nous avons l'exemple de Joseph. Il était tout seul dans la maison et la femme avait déjà tout calculé. De telles femmes sont de grands stratèges. Vous savez que non, le mari ne pourra jamais nous attraper. Il est déjà très loin. Et je vais le garder là-bas avec téléphone. Et non, il ne faut pas venir maintenant. Blablabla. Mais Joseph avait l'amour de la parole. Il dit, comment ferai-je un aussi grand mal? Comment pécherai-je contre l'Éternel, mon Dieu? C'était un homme de même nature que toi et que moi ici. Avec tous les organes normaux. Alléluia. Mais c'est Dieu qui l'a aidé. Quand on prend position pour lui, il nous aide même dans toutes ces circonstances. Alléluia, ça fait tomber beaucoup de gens, l'impudicité. Quoi encore? On va lire maintenant dans 1 Samuel 4 et 5. 1 Samuel 4 et 5. 4, 5. Oui, je vais lire, oui. Lorsque l'arche de l'Alliance de l'Éternel entra dans les camps, tout Israël poussa des grands cris de joie. Et la terre fit ébranler. Ça, ce sont les choses qu'aimaient les fils d'Élie. À ce moment-là, alors pourtant, il y a Samuel avec Élie, était toujours cloué à la maison, en train de prier, intercéder l'Éternel. Mais les fils d'Élie, c'est les louyengues, les cris, et tout ça dans l'église, c'est tout ce qui les intéressait. Chose grave, on va lire ici maintenant au verset 4. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'Alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins, et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'Alliance de Dieu. Oh! Avec tout ce que vous faites là, fils d'Élie, et vous venez même vous mettre à côté de l'arche, la parole de Dieu. Ça, c'était quoi, ça? C'est juste. Donc, ils considéraient le ministère comme juste un titre honorifique. Ils ne voyaient pas la lourde responsabilité qui était attachée au ministère. c'est quoi la popularité? Une des choses qui fait tomber beaucoup de chrétiens et beaucoup de prédicateurs. Donc, toutes leurs préoccupations, parce qu'ils ont refoulé l'amour du Père, maintenant c'est l'amour du monde qui est venu prendre la place. Popularité, impudicité, amour de l'argent. Et vous savez comment ils ont fini. Amen. Le diable, il va vous applaudir, mais c'est pour vous tuer après. Ah, je pense que on va s'arrêter là peut-être. Il est déjà 20h12. Ok, on peut se mettre debout. On va se mettre debout. Nous allons vraiment élever nos voix pour prier d'abord pour tous les serviteurs de Dieu. Et chacun serviteur de Dieu, ces mêmes choses qui troublent les serviteurs de Dieu, ça trouble tous les enfants de Dieu. Popularité, amour de l'argent, amour, l'impudicité, ça trouble tout le monde. On ne peut pas se voiler la face comme mon frère Michel a l'habitude de le dire. Voilà, ça nous trouble nous tous, de temps à autre. Nous allons prier pour ça, que Dieu vraiment nous remplisse de cet amour du Père, pour que ces choses du monde ne puissent pas venir tabernacler à nous. Ces deux amours-là ne peuvent pas quoi. L'amour véritable hein, exclut le partage. Les fils d'Élie, tout ce qu'ils avaient, c'était cet amour philéo. Comme mon frère, le pasteur l'a dit ici, cet amour-là que nous avons atteint comme mammifère. Mais quand vous êtes un homme esprit, un homme spirituel, vous avez un autre type d'amour qu'on appelle l'amour agapao. C'est ça qui nous aide. Nous allons prier que Dieu nous vienne en aide afin de nous mettre à l'abri de toutes ces attaques d'impudicité, de l'argent, de la popularité. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, je te remercie Seigneur. Toi, notre Dieu, qui a permis que nous puissions encore nous retrouver ici pour nous partager le pain de vie. Oh Dieu, nous avons compris, Seigneur, que ce qui est vraiment important, c'est que nous ayons l'amour du Père dans notre cœur, l'amour de la vérité. Seigneur Jésus, si tu vois encore l'amour du monde, traîne à moi, Seigneur. Si tu vois encore l'amour du monde traîner dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur, tu es plus que capable, ô Seigneur, de me venir en aide. Et aide-moi aussi, ô Dieu, afin que je puisse plus me préoccuper de toi que des choses de ce monde, afin que l'ennemi ne puisse vraiment pas venir à moi pour m'entraîner dans des choses qui donnent la mort. Merci Seigneur, écoute les cris qui sont en train de monter vers toi, alors que tes enfants se sont déplacés pour t'écouter toi Seigneur. Maintenant ils sont en train de te parler. Oh Dieu, tu nous connais mieux que quiconque. Seigneur, puisses-tu nous venir en aide. Alléluia. Amen. Nous allons prier aussi, puisqu'il nous arrive de temps à autre, de dire, voilà, ça c'est peut-être un frère qui me parle, c'est peut-être tel. Que Dieu nous aide, afin que, quand la parole de Dieu est en train d'être prêchée, quand les Écritures sont en train d'être présentées, que Dieu nous vienne en aide, afin que nous puissions vraiment capter la voix de, qui est derrière la prédication, derrière les Écritures. Prions encore notre Seigneur afin qu'il puisse vraiment nous aider dans ce sens-là. Prions. Dieu notre Père, nous venons encore auprès de toi, Seigneur. Nous avons compris que le fils d'Élie, il pensait peut-être que ça, c'est seulement papa qui parle. Ça, c'est seulement le pasteur, c'est seulement le prédicateur. Ils n'ont pas pu capter la voix de Dieu au travers de la prédication. Oh Seigneur, et nous avons compris que quand nous sommes dans une telle situation, la mort n'est pas très loin. Parce que l'Écriture dit que Dieu voulait le faire mourir. Seigneur Jésus, nous venons auprès de toi. Et t'as convaincu que ça, toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Assiste-nous, afin que, Père, nous puissions toujours faire la part des choses entre la parole d'un homme et la parole de Dieu, entre la voix d'un homme et la voix de Dieu. Seigneur, assiste-nous. Alors que nous élevons nos voix vers toi, te demandant ces choses au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Alléluia. S'il y a des malades au milieu de nous, il n'y a pas. Ils sont loués. Nous remercions le Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire baptiser? Il n'y en a pas. Ils sont loués. Il y a ceux qui ont n'importe quel problème. Voilà. Je vais demander au frère Benoît là. Oui, Benoît, tu peux prier pour les frères et les sœurs qui ont élevé leurs mains. Et si peut-être tu es poussé à imposer les mains, tu imposes. Amen. Et nous croyons de tout notre cœur, Seigneur, que tu as déjà la solution, Seigneur, à ces problèmes. Que tu es la solution à ces problèmes, Père. C'est pourquoi je te prie, ô Dieu, d'étendre ta main, Seigneur, pour toi, ô Dieu, de toucher, d'agir, car toi, tu parles et tu agis, Seigneur. Tu te caractérises, ô Éternel. Ta parole est puissante, elle est vivante, ô Dieu, et agissante. Puisses-tu toucher les cœurs, puisses-tu changer les situations, ô Éternel, mon Dieu, Père, pour tous ceux qui sont dans la problématique, Seigneur,
sortir
vainqueur des combats auxquels ils sont confrontés, Seigneur. Merci encore d'étendre ton bras, et certainement nous reviendrons dans ta maison avec des témoignages à la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur. Merci de le faire, car nous te l'avons demandé humblement, dans le nom de Jésus le Christ. Amen.
Amen. Dieu soit loué, nous pouvons nous asseoir et retourner dans nos maisons, dans la paix de notre seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.